Chapitre 65. César passa une mauvaise nuit, pareille à celle que Napoléon dut passer après la rupture du pont de Lobau. Tous deux, confiants dans la fortune, avaient fait à peu près la même faute. César se reprochait d'être venu présenter la guerre à Pompée sur une côte aride, où ses soldats mouraient de faim, tandis qu'il n'avait aucune chance d'affamer ceux de Pompée, nourris par une flotte. Il pouvait transporter la guerre en Thessalie et en Macédoine, contrées fertiles où ses estomacs germains et gaulois eussent trouvé largement à se repaître. Il n'en avait rien fait. Au reste, peut-être était-il temps encore. Scipion avait été envoyé en Macédoine avec 2 légions. Si César faisait mine de l'y suivre, bien certainement Pompée, plus amoureux que jamais de sa femme Cornélie, ne laisserait pas César égorger son beau-père et ses 2 légions. Si, au contraire, Pompée, contre l'attente de César, traversait la mer et retournait en Italie, César tournait par l'Illyrie et venait lui présenter le combat sous les murs de Rome. Il commença donc par pourvoir au traitement des blessés et des malades. Puis il fit partir blessés, malades et bagages pendant la nuit, sous la conduite d'une légion, avec ordre de ne s'arrêter que lorsqu'on serait à Apollonie. Le gros de l'armée ne devait se mettre en marche que vers les 3 heures du matin. Mais quand l'armée fut instruite de ce départ et sut que César prenait cette résolution parce qu'elle avait mal combattu, ce fut un deuil parmi les soldats. La 9e légion, qui, prise de peur, avait si facilement cédé, vint tout entière devant la tente de César, lui demandant de la punir. César infligea quelques punitions légères et consola ses soldats. « Vous ferez plus bravement une autre fois, dit-il, mais je dois donner à votre effroi le temps de se calmer. » Les soldats insistaient pour prendre leur revanche à l'instant même. César s'y refusa absolument et donna de nouveau l'ordre de se mettre en route à 3 heures du matin. On marchait sur l'ancien camp d'Apollonie. L'ordre fut exécuté dans le sens où il avait été donné. César sortit le dernier avec 2 légions, trompettes en tête. Sortir sans bruit, ce n'était plus battre en retraite, c'était fuir. Au point du jour, Pompée lança sa cavalerie sur l'arrière-garde de César. Ce fut une grande fête dans le camp de Pompée. César avait eu beau faire sonner la trompette, César n'était pas en retraite, il était en fuite, il était vaincu. On avait fait 500 prisonniers, au mépris de la loi que Caton avait fait rendre et qui disait qu'aucun soldat romain ne serait tué hors du champ de bataille. Labienus, qui avait juré de ne poser les armes que lorsqu'il aurait vaincu son ancien général, Labienus obtint de disposer d'eux. Pompée feignit de croire que c'était pour leur faire grâce et les lui livra. « Eh bien, mes vieux compagnons, leur dit Labienus, depuis que nous nous sommes quittés, nous avons donc pris l'habitude de fuir. » Et il les fit tuer depuis le premier jusqu'au dernier. Comme l'avait prévu César, Pompée se mit à sa poursuite. Plusieurs avaient conseillé à Pompée de repasser en Italie, de reprendre l'Espagne et de rentrer ainsi dans la possession des plus belles provinces de l'Empire. Mais abandonner Scipion, mais livrer l'Orient aux barbares, mais ruiner les chevaliers romains en laissant à César la Syrie, la Grèce et l'Asie, impossible. D'ailleurs, César n'était-il pas en fuite? Ne valait-il pas mieux le rejoindre et terminer la guerre par une action générale? Pompée écrivit au roi, aux généraux et aux villes, comme s'il était déjà vainqueur. Sa femme, Cornélie, était à Mytilène avec son fils. Il lui envoya des courriers qui étaient chargés de lui remettre des lettres, dans lesquelles il annonçait à Cornélie que la guerre était finie, ou à peu près. Quant aux amis de Pompée, leur confiance était chose curieuse. Ils se disputaient déjà les dépouilles de César. Le grand pontificat surtout qu'il allait laisser vacant, soulevait bien des ambitions. Qui allait être grand pontife à sa place? Lentulus Pincter et Domitius Aenobarbus y avaient bien des droits. Mais Scipion était beau-père de Pompée. En attendant, et pour ne pas perdre de temps, quelques-uns envoyèrent à Rome leurs amis ou leurs intendants pour le retenir dans le voisinage du Forum, des maisons au seuil desquelles, pour ainsi dire, ils pussent briguer les charges qu'ils comptaient demander. On faisait dans le camp de Pompée ce que, 18 siècles plus tard, on fit à Coblenz. Domitius avait dans sa poche une loi des suspects et un projet de tribunal révolutionnaire. « Dressez vos tables de proscription, disait Cicéron. Ce sera toujours autant de faits. Notable de proscription, répondaient les autres émigrés. Pourquoi faire? Bon pour Sylla de perdre son temps à dresser des tables. Nous ne proscrirons point par tête, nous proscrirons par masse. Mais Pompée, lui, n'était pas si pressé d'en venir à une bataille définitive. Il savait à qui il avait affaire, il connaissait de longue main ces hommes invincibles sous les armes et accoutumés à vaincre ensemble. Seulement, ils avaient vieilli et on pouvait les miner avec du temps, les briser par la fatigue. Pourquoi compromettrait-il ses conscrits contre ses vétérans? Mais Pompée n'était pas maître de faire ce qu'il voulait. Il y avait tant d'hommes illustres, tant d'hommes de nom, tant d'hommes de rang dans cette armée de Pompée, que tout le monde était le maître, excepté Pompée. Caton seul était de son avis. Il voulait temporiser, tout obtenir de la lassitude et des négociations. Il avait sans cesse devant les yeux les 2000 cadavres de Dyrrachium et les 500 prisonniers égorgés par Labienus. Il s'était, ce jour-là, retiré dans la ville, en pleurant et en couvrant sa tête de sa robe, en signe de deuil. Cicéron raillait plus que jamais, et bien souvent, Pompée avait souhaité que ce railleur impitoyable passât dans le camp de César. Il est vrai que les autres secondaient de leur mieux Cicéron. Quand ils voyaient Pompée suivre pas à pas César, de l'Épire à l'Illyrie, ils lui reprochaient de vouloir éterniser sa position de dictateur. Il se plaît, disaient les mécontents, à avoir à son lever une cour de rois et de sénateurs. Domitius Aenobarbus ne l'appelait jamais qu'Agamemnon, c'est-à-dire le roi des rois. Mes amis, disait Favonius, nous ne mangerons point cette année de figues de Tusculum. Afranius, qui avait perdu l'Espagne et qui était accusé de l'avoir vendue, appelait Pompée le grand trafiqueur de province. Défaisons-nous d'abord de César, disaient les chevaliers, et ensuite nous nous déferons de Pompée. Celui-ci avait tellement peur que, César vaincu, Caton ne s'éleva pour lui demander de déposer le commandement, qu'il ne lui avait donné aucune commission importante, et, marchant à la poursuite de César, l'avait laissé à Dyrrachium. Caton en était réduit à l'état d'un gardeur de bagages. Mais enfin, le concours de raillerie et d'imprécation devint si fort contre Pompée qu'il résolut d'attaquer César dès que celui-ci s'arrêterait. César s'arrêta dans les plaines du Pharsale.